Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Bienvenue, 2 heures de service compris. Vous vendez un bien, les questions de servitude et de conformité passées au crible par notre notaire, maître Ludovic Froment. Ça, ce sera à 13h20. Vous avez envie d'arrêter de payer votre loyer car le propriétaire ne fait pas les travaux dans l'appartement. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Les conseils de Michel Fréchet, le président de la Confédération Générale du Logement. Ça, ce sera à 12h40. Le 0-8-826-300-300, bien sûr, pour que nos experts vous aident à trouver des solutions. Mais d'abord, la politique, et là aussi on a tous besoin de trouver ensemble des solutions. La politique expliquée par Mickaël Darmon, éditorialiste Sud Radio, et par le politologue Olivier Rocan. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Bonjour Olivier Rocan.
Bonjour.
Merci évidemment d'être à mes côtés pour répondre aux questions que se posent en ce moment les auditeurs de Sud Radio, parce que après le renoncement de François Hollande que personne n'attendait, hein, on est tous nombreux quand même à le dire ce matin, même s'il y avait des signes, hein, vous allez nous le dire Mickaël, hein, vous, ça vous étonne qu'à moitié. Il y a la suite sur le plan institutionnel, il y a la suite avec Manuel Valls qui se prépare, il y a la suite avec l'état de la gauche et les appétits qui s'aiguisent. Alors, messieurs, on va voir d'abord avec vous, Mickaël, parce que vous avez de sacrées bonnes infos. On va voir, puisque vous, ça vous étonne qu'à moitié, ce renoncement de François Hollande, comment il a mûri sa décision dans les derniers jours.
Tout d'abord, c'est vrai qu'il y avait quelques signes avant-coureurs. On avait déjà évoqué ici sur l'antenne de Sud Radio comment depuis quelques jours les proches de François Hollande n'avaient plus de contact SMS avec lui. C'est dire hein, si c'était important parce qu'il était toujours en permanence en contact avec eux. Des réunions de préparation liées à la campagne ont été annulées. 2 rendez-vous au moins, je peux vous en parler, donc avec des visiteurs du soir importants ont été repoussés, sinédiés et donc finalement n'ont jamais eu lieu. Donc tout cela était des signes un petit peu avant-coureurs du fait que effectivement François Hollande était en train de mûrir une décision et qui pour ceux qui l'encourageaient à y aller, hein, parmi les Julien Drey, parmi les Le Foll et les Hollandais première heure et même Jean-Yves Le Drian, on va en reparler, eh bien commençait à être interprété comme une décision qui se mûrissait vers le renoncement. Ça c'est les premiers signes avant-coureurs.
Mais on a fait une émission consacrée aux suites de la primaire de la droite et déjà les conséquences pour la gauche. Lundi, le déjeuner animé entre François Hollande et Manuel Valls. On peut imaginer là quand même que François Hollande a dit lundi à Manuel Valls « Bon, ne t'inquiète pas, je n'y vais pas », d'où le fait qu'ensuite on a vu cet apaisement de la part du Premier ministre.
Alors en fait, si on refait effectivement le film des événements avant de parler ou de penser à leur signification politique, effectivement, on efface depuis la publication du livre donc de confidences de David et l'homme avec François Hollande, on est face à une colère noire et une rupture politique totale de Manuel Valls qui décide à ce moment-là de passer à l'offensive et d'entrer dans une longue séquence de guerre d'usure et d'empêchement, vraiment. Un peu comme Rocard l'avait d'ailleurs tenté en son temps avec Mitterrand. Mais là, on est dans une logique totalement différente. Et il explique en permanence, soit par la presse, soit en parlant directement à Hollande en lui disant plusieurs fois « Tu n'es pas en situation d'être candidat. » La déflagration de ce livre est donc trop importante et tout est totalement explosé. À partir de là, François Hollande participe également dans cette réflexion-là. Il s'affronte, il se reproche mutuellement d'ouvrir des crises. Mais à chaque fois, Manuel Valls continue à pousser ses feux. À ses proches qu'il réunit tous les lundis, et avec lesquels il parle aussi régulièrement, il annonce qu'avec l'interview dans Paris-Normandie et dans le JDD, selon son expression, il fait monter la tension. Mmh. Et il décide de porter le grand coup le jour de l'interview dans le JDD en disant « Je suis prêt à participer à une primaire ». Le week-end même où Claude Bartolone, de son côté, envoie également une bombe le jour de la réunion de Bondy avec les carrefours de la gauche. Il envoie également une bombe en appelant Valls, Macron, à participer à une primaire face à Hollande. À partir de là, tout s'accélère. Pour arriver effectivement à ce déjeuner de très haute tension, préparé par Manuel Valls et par ses proches lundi matin, auquel il affirme qu'il va encore dire à Hollande qu'il ne peut pas être candidat.
Et là Hollande lui donne des gages.
Il lui donne une clé, Il lui donne une clé sans lui donner effectivement le mode d'emploi, le jour, l'heure, comme ça s'est fait hier. Il lui donne la clé selon laquelle effectivement il faut qu'il lui laisse le temps de sortir parce qu'il ne va pas être candidat. À ce moment-là, on voit tout d'un coup Manuel Valls changer totalement d'humeur, partir en Tunisie et à la grande surprise des journalistes qui l'accompagnent, des diplomates qui le rencontrent là-bas, j'en ai eu quelques sources, tout d'un coup change d'humeur. Il devient
beaucoup plus détendu.
Il laisse ici ou là partir quelques confidences et on comprend qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, on se pose la question, pourquoi tout d'un coup il change d'humeur au moment où François Hollande, lui, s'enferme, ne parle plus, ne réagit plus aux petites blagues, coupe les SMS, supprime les réunions et aboutit au scénario d'hier après-midi où il prévient tous ses proches au dernier moment.
Une première hein, sous la Ve République, pas candidat parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne le peut pas, hein, faiblesse de son bilan, et une gauche qui veut sa peau, Olivier Roucan. Hein.
Oui, mais qui était également un signe de faiblesse de ces gauches absolument émiettées, dispersées. Et on peut se poser la question de savoir s'il existe encore une gauche de gouvernement, parce que la primaire du Parti Socialiste s'annonce très conflictuelle. Et quel ordre va émerger de ceci ? Donc ce qui est en jeu finalement après cette décision et dans la période qu'il a préparée et celle qui va suivre, c'est tout simplement la crédibilité de la gauche à gouverner.
La crédibilité de la gauche à gouverner. On a les auditeurs qui sont déjà là pour vous, messieurs. Emmanuel qui a fait le 0826-300-300. Et vous allez voir, Olivier Roucan, sa question va nourrir votre réflexion là à l'instant. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs aussi à cette radio et puis aux intervenants. Content d'être parmi vous en tout cas. Voilà.
Oui, alors, bienvenue, on vous écoute.
Alors je vous entends, je vous ai écouté évidemment, donc c'est vrai qu'on parle, on a tendance à parler des personnalités politiques, mais donc ensuite, Manuel Valls, évidemment qui va se présenter, ça ne fait quasiment aucun doute aujourd'hui, mais ma problématique, mon questionnement, c'est que ça arrive un peu trop tard tout ça. Pourquoi je m'explique, vous avez quand même, donc on parle des personnalités, mais vous avez oublié aussi donc la base de militantisme qui sont complètement dispersées aujourd'hui, où vous avez un Emmanuel Macron qui a évidemment absorbé une partie des militants et des adhérents du Parti Socialiste. Et puis aujourd'hui, Manuel Valls, il va se retrouver un petit peu isolé parce qu'il va supporter le bilan de quelque part de François Hollande, auquel à la primaire, les autres candidats ont évidemment ce qu'on appelle la vraie gauche, si j'ai envie de dire.
Emmanuel, c'est vrai que Manuel Valls va avoir fort à faire. Hein. On va rentrer dans le détail pour savoir quand est-ce qu'il pourrait démissionner et annoncer sa candidature. Mais finalement, votre question, Emmanuel, c'est est-ce que Manuel Valls va être assez puissant pour faire face à un Emmanuel Macron, non ?
Oui, exactement. Exactement.
Alors, Olivier Roucan,
aujourd'hui, Manuel Valls, sachant qu'ils sont quand même quelque part sur le même lignée politique économique, ça va être très compliqué pour Manuel Valls.
Question, cela dit, Olivier Roucan.
Il y a quand même une distinction sur le plan des idées, puisque Manuel Valls occupe le terrain, j'allais dire, sécuritaire, autorité républicaine,
oui.
Alors que Macron est plutôt sur la question des libertés et de la diversité. Donc là, il y a quand même un clivage important qui a secoué la gauche, notamment sur l'enjeu de la laïcité ces derniers mois. Bon, oui. Donc là, il peut y avoir une petite signification. Sur le plan des rapports de force, et l'un et l'autre ne sont pas assurés d'avoir le soutien plein entier d'une formation organisée. Macron en est au début. Emmanuel Valls n'a pas les clés du Parti Socialiste, dans tous les cas, pas pour l'instant. Donc ça c'est sur le plan de l'organisation des forces.
Olivier Roucan, pour rebondir sur ce que dit Emmanuel quand il dit Emmanuel Macron a vampirisé une partie des militants du PS, c'est vrai ça ? Parce qu'on parle de 90 000 adhérents, mais enfin c'est même pas des adhérents qui ont payé une adhésion chez Emmanuel Macron, faut faire le distinguo.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un militant de parti politique ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, le dernier moment, va aller voter à des primaires ? Est-ce que c'est quelqu'un qui clique sur Internet et qui dit, à un moment donné, je suis proche de...
Donc, est-ce que c'est ça, pour l'instant, les 90 000 adhérents d'Emmanuel Macron c'est je suis proche d'eux et j'ai cliqué sur Internet. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre question.
Merci.
Et votre réflexion. Je vous choisis, tiens, hein, parce que vous avez une bonne voix et on sent que vous êtes bien impliqué là pour écouter toutes les émissions sur Sud Radio. Je vous offre un magnifique Norman, un sapin de Noël d'au moins 1,50 m accompagné d'une carte cadeau Truffaut de 50 € pour décorer ce fameux sapin de Noël, évidemment décoration qui vient de chez Truffaut. Bravo Emmanuel pour votre participation à Service Compris sur Sud Radio.
Sud Radio, Service Compris.
Véronique Jacquier.
C'est de la politique et c'est du tout compris avec Mickaël Darmon, notre éditorialiste Sud Radio, et avec Olivier Rocan, politologue, tous les deux passionnants pour vous raconter les coulisses du renoncement de François Hollande et pour regarder maintenant ce qui nous attend. Parce que c'est pas piqué des verres, Mickaël Darmon. Hein. La question, bien sûr, du jour, c'est Manuel Valls va-t-il démissionner ? Est-ce une obligation, hein, quand on connaît ses ambitions ?
C'est la question qui se pose, en tout cas. Tout le monde considère effectivement logique qu'il démissionne. Est-ce que c'est effectivement sur le plan donc, de la symbolique, de l'éthique ? Sur le plan institutionnel, il n'y a pas d'obligation. Simplement, il est vrai que l'époque comprendrait mal, et la situation dans laquelle on est en ce moment sur le plan électoral et l'état de l'opinion comprendrait assez mal que au fond il reste à Matignon avec tous les moyens de l'État et se déclare candidat. D'abord, ça rappellerait des précédents
fâcheux. En plus, on aurait l'impression que ce serait une cohabitation, une forme de cohabitation.
Ce serait une forme de cohabitation. Je pense que ça renverrait à des exemples assez peu efficaces, en tout cas des mauvais souvenirs, au moins pour Manuel Valls, parce que ce serait tout simplement se jospiniser quelque part. D'autres diraient se baladuriser. Souvenez-vous, Édouard Balladur qui annonce sa candidature depuis Matignon, avec le résultat que l'on sait. On n'est plus dans cette époque-là. Donc normalement, il devrait démissionner. La question est de savoir quand le faire.
Alors, est-ce que c'est judicieux de le faire aujourd'hui ou d'ici demain ? Parce qu'il y a la réunion très attendue de la Belle Alliance Populaire, là, la grande messe des socialistes, des écologistes, enfin de tout un paquet de gens de gauche. Est-ce qu'il serait bien accueilli à cette réunion ?
Tout d'abord, judicieux, c'est pas possible aujourd'hui, formellement.
D'accord.
Il est actuellement à Nancy, Premier ministre, en train de piloter un comité interministériel sur le handicap avec 7 ministres à ses côtés. Il est chef du gouvernement. Pendant ce temps, François Hollande, président de la République, en titre et en fonction encore, est à Abu Dhabi, en déplacement à l'étranger, pour participer à une conférence bipartite, ça ne s'invente pas, sur les patrimoines en péril. Ensuite, il faut donc qu'il revienne, et il y a donc samedi la grande réunion de l'Alliance Populaire. Et là, la question effectivement politique que vous posez est importante. Dans le contexte de bouleversement, de démoi, de colère d'une partie des socialistes à l'égard de Manuel Valls, qui peuvent lui reprocher d'avoir aussi provoqué cette décision, est-ce qu'il peut prendre le risque de faire partir sa fusée de travers, comme on dit ? Or, la campagne va être très courte, et il y a quelque chose qui doit absolument réussir, c'est son entrée en campagne. Mmh. Sinon, il ne pourra pas avoir la capacité de rassembler des gauches qu'il avait décrétées irréconciliables. Mmh. Donc vous voyez déjà l'ampleur du défi.
Moi, je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio. Je suis sûr qu'ils ne comprennent plus rien, parce que François Hollande n'a pas cité le nom de Manuel Valls hier soir. Hein. C'était emblématique quand même. Hein. Et il a dit, il en a appelé au sursaut des progressistes. Alors, de quel progressiste parle-t-il finalement, Olivier Rocan ?
Dans son livre, enfin dans le livre d'Ave et l'Homme, il évoque déjà un parti du progrès pour remplacer le parti socialiste.
C'est Emmanuel Macron qui appelle à lui les progressistes.
Oui, mais je vous lis, là c'est François Hollande dans l'ouvrage depuis quelques mois, donc a déjà cette idée de changer le parti socialiste et de rassembler dans un nouveau parti la gauche. Il devait avoir en tête ce qu'avait réussi à faire Jacques Chirac en 2001, pourtant en mauvaise posture, en préparant l'UMP. Bon, lui, ça ne se fera pas, ou dans tous les cas, pas sous son autorité. Mais il est clair qu'aujourd'hui, compte tenu de l'état des gauches, et le pluriel est important, il faut préparer une nouvelle force politique de gouvernement, mais pour l'instant, on en est à l'état zéro.
Oui, c'est la préhistoire.
Voire, moins quelque chose.
Oui, allez, les questions des auditeurs de Sud Radio sur ce thème, bien sûr. Hein, l'état des gauches, l'état du pouvoir aussi sacrément affaibli quand même avec le renoncement de François Hollande. On continue d'en parler dans un instant et on vous attend via le 0826 300 300 sur Sud Radio dans Service Compris qui devient Politique Tout Compris.
Sud Radio, Service Compris.
Véronique Jacquier.
Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre, Service Compris qui devient Politique Compris pour tout comprendre du renoncement de François Hollande et de la suite évidemment. Hein, ça nous intéresse la politique quand elle est bien expliquée. Michel Darmon est là pour vous raconter ce qui se passe et ce qui va se passer. C'est notre éditorialiste et le politologue Olivier Roucan nous permet de prendre beaucoup de hauteur pour comprendre ce qui se passe. Alors là on comprend plus rien justement messieurs. La primaire qui se prépare, mais ça va être un jeu de massacre, disons les choses, parce que vous l'avez évoqué tous les deux, Manuel Valls a beaucoup de soucis à se faire, avec en embuscade Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, alors il y a aussi Gérard Filoche, qui était dans le grand référendum tout à l'heure sur Sud Radio, il y a Marie-Noëlle Lindemann, bon, il y a aussi Aubry en embuscade, qui ne va pas le louper, Manuel Valls. Alors ça va ressembler à quoi cette primaire? Est-ce qu'elle va être constructive?
Tout d'abord, ça prend là, sur le papier, l'allure d'une grande castagne.
Oui, alors ça c'est sûr.
Parce que, et d'un grand règlement de compte et d'un droit d'inventaire en direct entre des ministres qui sont tous des anciens ministres de l'équipe Valls et du gouvernement du pouvoir Hollande. Vous avez Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Ils ont fait en sorte que Valls remplace Jean-Marc Ayrault. Et ensuite, ça s'est vite gâté et Valls a fait en sorte qu'il soit éjecté du gouvernement, notamment sur les divergences de vues sur la politique économique entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls et François Hollande. Donc ça ne s'est pas très bien passé. Benoît Hamon est quand même le seul ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas eu le temps de faire une rentrée scolaire.
Donc, oui, c'est vrai, on l'avait oublié
quand même,
ça.
Voilà, on oublie vite les choses, mais enfin, il faut quand même rappeler qu'ils n'ont pas eu que des bons souvenirs. Donc ils vont se retrouver les trois, ça va être règlement de compte. Ça, c'est certain, parce qu'ils vont quand même reprocher à Manuel Valls d'avoir fait le tournant sécuritaire, d'avoir prôné la déchéance de nationalité après les attentats et d'avoir fait la loi El Khomri, qui était la réforme donc, du marché du travail qui a provoqué l'affront du printemps dernier. Donc, est-ce que quand tout le monde dit la voie est libre pour Manuel
oui,
Valls, la question,
gagné,
on met trois points d'interrogation. Le terrain est miné surtout.
Oui, ça profitera peut-être à François Fillon, on n'y est pas encore. Olivier Roucan, oui.
Oui, je rajouterai petit effort de mémoire que Lionel Jospin en 1995, lorsqu'il fait un score honorable pour reprendre le legs du mitterrandisme, il a quand même eu une traversée du désert de quelques mois qui lui a permis d'incarner un certain droit d'éventaire, une prise de distance. Là, Manuel Valls ne pourra pas, parce que même s'il traverse, ce ne sera pas le désert, il entrera en campagne, il quittera le pouvoir, mais il ne pourra pas se distancier du bilan. Et ça va donc provoquer, ce que vous avez dit, ces conflits internes à n'en plus finir. Deuxième remarque, c'est également par rapport à l'histoire, à la mémoire, la gauche aujourd'hui du Parti Socialiste, enfin le Parti Socialiste et la gauche, pardon, ont du mal à représenter l'esprit collectif, donc la solidarité.
Bien sûr,
leur
oui.
marqueur idéologique.
Triste
donc,
spectacle
là,
pour les Français.
Il y a un clivage entre l'incarnation et ce qui fait quand même l'idéologie de ce camp, la solidarité.
Et Emmanuel Macron dans tout ça alors? La primaire ou pas finalement pour lui? Qu'est-ce qu'il va faire?
Ça c'est son défi maintenant. Il est aussi un peu piégé par cette décision de François Hollande, parce que soit il continue à rester à l'extérieur et à faire un peu comme on l'a vu sur le film qui lui a été consacré récemment, je suis habité par une mission qui me dépasse, soit il rentre dans l'arène de la primaire et là il montre qu'il a un projet politique et qu'il est capable d'affronter l'arène politique. Donc en fonction de cela, déjà on verra vraiment où il est. D'autre part, il faut savoir aussi comment se répartir les soutiens de François Hollande. Ségolène Royal, qui va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à Manuel Valls, va très certainement, quand elle décidera de le faire officiellement ou pas, soutenir Emmanuel Macron.
Oui,
on se pose la question de savoir si les proches de François Hollande qui vont reprocher, qui reprochent déjà entre les portes et en coulisses à Manuel Valls d'avoir provoqué la démission ou le licenciement même, disent-ils, de François Hollande, est-ce qu'ils vont lui faire payer? Est-ce qu'ils ne vont pas tout d'un coup soutenir Emmanuel Macron?
Il y a l'avocat Emmanuel Mignard qui est un proche de François Hollande, hein, qui a déjà soutenu, enfin qui a dit ce matin qu'il soutenait Emmanuel Macron. Alors messieurs...
Qu'il va conseiller à François Hollande de le faire.
Oui. On accueille Laurent qui a une question à vous poser à propos d'Emmanuel Macron justement. Bienvenue Laurent sur Sud Radio.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Tout le monde.
Oui, enfin, j'en ai plein de questions.
Bonjour.
J'en ai pas que sur Macron,
bonjour.
Mais enfin, bon, je commence par quoi? Pour moi, je pourrais commencer par le début, c'est-à-dire pourquoi collaborer à un système, enfin les médias en l'occurrence, un système qui va droit dans le mur, c'est-à-dire je parle de l'Europe, hein, en sachant que de toute façon l'Europe nous impose l'austérité qui nous mène à quoi, c'est-à-dire à l'échec. La première question, c'est plutôt celle-là.
Alors, oui, Olivier Roucan.
Bien, je ne sais pas trop par rapport au sujet du jour, le lien direct.
Écoutez, disons non mais Laurent, question... finalement oui. Moi qui ai l'habitude d'écouter les auditeurs dans Service Compris, donc j'essaie de voir où vous voulez en venir. Vous posez quand même des questions par rapport à Emmanuel Macron.
Et
l'idée, c'est il a peut-être un programme, donc est-ce qu'il n'a pas une petite longueur d'avance, c'est pas ça?
Si vous voulez, moi, nous les Français, moi je parle pour les Français parce que j'ai beaucoup de clients, je suis indépendant, et la majorité des gens pensent que ce mec-là a déjà travaillé, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui en France, on a besoin des gens qui ont déjà eu quelque chose à faire dans la société. Vous voyez, la majorité des politiques que vous parlez n'ont jamais eu de salaire. Oui.
Ah, une expérience professionnelle, d'accord.
Ah oui, il a été un grand banquier d'affaires, absolument.
Depuis quelque temps, il est vrai.
Attendez, Laurent, laissez parler Olivier Roucan.
Non, mais juste pour préciser, il est vrai que depuis quelque temps, plusieurs enquêtes qualitatives d'opinion indiquent bien qu'il y a une demande de renouvellement du personnel politique et sur ce mode, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de gérer du privé. L'idée qu'il était ministre auparavant est moins importante, par exemple. Donc, ça indique que votre opinion, là, a un écho large. Et on voit bien que là, qu'il y a un renouvellement, puisque un certain nombre de politiques de premier plan qui ont marqué les 30 dernières années sont invités à sortir du jeu. Donc,
ah oui, là, c'est un jeu de massacre, en ce sens, voilà. La primaire, hein, messieurs. Exit Nicolas Sarkozy, exit Alain Juppé, qui a dit d'ailleurs ce matin qu'il abandonnait la politique nationale. Mm-hmm. Exit donc François Hollande, et puis n'oublions pas, grâce à la primaire des écolos, exit Cécile Duflot. Enfin bon, elle a encore un avenir, elle, peut-être.
Encore que ceux qui prennent la relève ne sont pas non plus de nouveau-nés en politique.
Tout à fait.
Tout est relatif.
Et c'est pas terminé parce que la tornade qui effectivement est en train de s'abattre sur ce monde politique à chaque fois que l'on donne la parole aux électeurs n'est pas encore calmée. On ne sait pas dans quelle mesure Marine Le Pen peut être ou pas au second tour.
Oui.
Aujourd'hui, on voit bien que l'inquiétude du côté du Front National depuis la désignation par la primaire de François Fillon leur fait prendre aussi en compte ce risque.
Mm-hmm.
Donc on n'est pas au bout de nos surprises dans un quinquennat absolument inédit qui n'a fait que montrer et produire des événements que l'on voit pour la première fois, et je crois que ça n'est pas encore terminé et que la seule certitude, c'est qu'on va être surpris.
Il y aura peut-être une surprise du côté de François Bayrou aussi, parce que lui, c'est pas dit qu'il tente une quatrième candidature à la présidentielle.
Oui, ça, ce serait moins une surprise, parce que c'est un petit peu son métier d'être candidat à l'élection présidentielle.
Olivier Roucan.
À part d'être maître de peau également.
Olivier Roucan.
Non, et on va donc se rendre compte assez vite aussi que cela n'est pas simplement dû à la personne de François Hollande, parce qu'on a un tropisme dans l'analyse en France, on personnalise énormément les choses. Or, on est sur des logiques sociologiques. Et en fait, la désorganisation du jeu n'est pas uniquement due à une personne qui est là.
Bien sûr.
Et qui,
c'est important
qui a
de
rappelé
préciser.
Aussi un certain nombre d'acquis et de faits hier en quittant la scène, en quelque sorte.
Merci Laurent pour votre question. On accueille Thomas qui a fait le 0826-300-300. Bienvenue sur Sud Radio, Thomas.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Moi, en fait, je voudrais revenir en fait sur la non-candidature en fait du président de la République. Tout le monde dit en fait, oui, c'est une surprise que François Hollande soit pas candidat. Mais pour moi, c'est pas une surprise parce qu'il a, plutôt un mandat catastrophique en fait sur ce qu'il a fait. Le chômage, il a pas baissé. Il y a eu des attaques terroristes et tout. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et puis ensuite, pour moi, sa non-candidature, ça va vraiment avantager un candidat. En fait, c'est Emmanuel Macron.
Il était en mauvaise posture dans les sondages aussi. Hein.
Oui.
Il était à 7,5%. D'intention de vote là dans le dernier sondage. Alors quand on voit qu'un François Fillon était à 29 et puis un Emmanuel Macron à 13-14, donc c'est vrai que ça fait mal pour le chef de l'État.
Donc vous voyez que le président de la République ne pouvait pas être candidat. Et pour moi, sa non-candidature, ça va avantager un candidat. Donc c'est Emmanuel Macron, parce que si vous avez vu sur Europe 1 ce matin, il y a déjà des personnes en fait qui vont de François Hollande qui vont rejoindre Emmanuel Macron. Donc en fait, pour moi, ma question, c'est est-ce que Emmanuel Macron a bien fait de se présenter à la primaire en fait?
Ah oui, donc très concret, on revient sur ce qu'on était en train d'expliciter avec Mickaël Darmon et Olivier Roucan. Est-ce qu'il a intérêt ou pas?
Il a intérêt dans un sens où s'il veut être capable de montrer qu'il est rassembleur. Parce qu'il y a quand même des mécaniques politiques qu'il faut quand même respecter dans la Ve République, dans le cadre d'une campagne présidentielle. Donc il doit quand même rassembler. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, là on parle beaucoup maintenant des primaires, puisque c'est l'événement qui est en train de s'installer dans la vie politique française, et on pense qu'une fois que la primaire est terminée, eh bien l'élection est faite. Mais pas du tout. Les candidats qui sortent de la primaire sont désignés par un corps électoral de 2 à 3 ou 4 millions de votants. Je vous rappelle que le premier tour, c'est 10 millions de personnes qu'il faut rassembler, et que le deuxième tour, c'est 20 millions de personnes. Donc il faut avoir un programme qui dépasse largement sa famille politique. Et là, la question se posera quand on verra quel est le véritable problème et le véritable programme, qui peut-être d'ailleurs sera son problème, d'Emmanuel Macron, qui n'est pas exactement placé à gauche.
Qui séduit presque plus les gens de droite que les gens de gauche.
Tous ceux qui s'imaginent que Emmanuel Macron va séduire le monde ouvrier, très certainement il va y avoir un contre-choc quand les propositions seront sur la table. Donc on est loin vraiment de la fin de la campagne, et on est loin d'avoir trouvé devant nous la personne qui va rassembler 20 millions d'électeurs.
Merci Thomas pour votre question. Au chapitre des surprises, messieurs, on a une question Facebook. Tom nous demande: est-ce que Taubira doit y aller? Vous l'avez oublié, Christiane Taubira,
presque. Elle va se faire entendre, mais...
Elle a dit la semaine dernière, quand elle a rencontré Martine Aubry, qu'elle n'avait pas l'intention d'y aller. Hein. Elles font de l'affichage, les deux femmes, pour dire « Coucou, on existe, on a un petit pouvoir de nuisance ».
Bien sûr, mais là aussi, c'est pareil. Pardon, mais on est dans une période, effectivement, monsieur tout à l'heure évoquait la culture médiatique. Et quelque part, la question est légitime par rapport à un prisme qu'on évoquait aussi tout à l'heure. Il ne suffit pas d'aller sur une chaîne d'infos pour être présidentiable. Il ne suffit pas d'être quelqu'un de médiatique pour être présidentiable. Par exemple, reprenons justement
Emmanuel
Macron.
Reprenons le paradoxe François Fillon aussi.
Reprenons d'abord Emmanuel Macron, qui aujourd'hui, voilà, on l'écoute encore, est considéré comme étant celui qui... Mais il n'a, à ce stade, sa candidature n'est pas valide. Il n'arrive pas à avoir les signatures. Il, dans chaque dîner, je peux vous dire qu'il fait pour lever des fonds,
il ne les obtient pas,
il n'a pas d'argent. Et autour de lui, on s'en inquiète énormément. Donc aujourd'hui, il n'est qu'une candidature, je dirais, hologramme. C'est une candidature médiatique qui n'a pas le rapport de force politique. Or, aujourd'hui, on peut le contester, ça va certainement changer, on voit bien que c'est en train d'évoluer, mais le système politique français reste encore avec des déterminants. Il faut avoir 500 signatures, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des députés, il faut être capable de pouvoir ensuite mener une politique publique et non pas uniquement aller à la télévision.
Il faut avoir les pieds sur terre, finalement. Hein, voilà. Messieurs, et Mélenchon dans tout ça, alors, est-ce qu'il peut tirer les marrons du feu, Olivier Roucan?
Il est clair, dans tous les cas, qu'il profite de l'espace qui lui est offert. Il en a profité, d'ailleurs, dès la fin de la primaire de la droite, puisqu'il a dit l'opposant à François Fillon, c'est moi. Jean-Luc Mélenchon, là encore, on est au début et la campagne n'a pas commencé. C'est vrai aussi pour François Fillon. Le jeu va être récompensé. C'est pour ça que s'appuyer sur des sondages au jour d'aujourd'hui pour dire François Hollande ne pouvait pas y aller, ça c'est un argument relatif. Mais donc pour revenir à Mélenchon, on ne sait pas s'il va vraiment en profiter parce que il est lui aussi quand même limité quelque part par l'organisation de ses soutiens qui existe, mais on a un appareil du Parti communiste qui lui est pas totalement acquis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même si les militants ont choisi, est-ce que ça va bien suivre? Parce que ses forces et ses réseaux sont limités. Et par contre, alors il a une ce que disait Michel Larmon, il a une puissance médiatique qui existe, avec peut-être quand même parfois là aussi des prises de position qui peuvent être contre-productives, c'est-à-dire l'outrance de Jean-Luc Mélenchon. Après, quand on veut être au second tour, il faut rassembler. Et là, il y aura quand même pour Jean-Luc Mélenchon
Il sera limité. Et pour conclure cette émission, messieurs, sur le plan institutionnel, un François Hollande qui dit « je renonce », ce qui veut dire « je suis empêché ». Bon, n'oublions pas. Comment ça va se passer là dans les 5-6 mois? Il est quand même encore plus affaibli. Non.
Bah, il est politiquement affaibli.
Alors, nos institutions sont solides, donc bien entendu, le bateau va aller vaille jusqu'à la présidentielle. Olivier Roucan.
Un président, en fin de mandat, les 6 derniers mois, quel qu'il soit, il ne lance pas des politiques publiques majeures.
Oui, c'est
donc,
vrai.
Donc, dans cette situation ou dans
oui,
une autre...
Oui, mais on est en plein état alors, d'urgence quand
oui,
même. Moi, c'est
là,
ça qui m'interpelle.
Justement, quand même, je pense que là, il a donné des garanties aux Français. Il n'est pas candidat, il tient l'État. Il, sans doute un nouveau Premier ministre qui sera un proche sera désigné, on peut faire cette hypothèse. Mmh. Et de ce point de vue, il y a un message rassurant qui a été envoyé hier dans le contexte que vous rappelez, celui d'une menace terroriste très élevée. Et pour le reste, je pense qu'il sera attaché à marquer une politique symbolique avant de partir sur des points qu'il voudrait
il va montrer voir quand même qui,
pris
qui,
en compte voilà. par son successeur. Je pense à la démocratie, je pense au pacte républicain et je pense à la politique étrangère. Donc je pense qu'il va là envoyer des marqueurs qu'il n'aura d'ailleurs peut-être pas su ou pas pu envoyer avant.
Pendant 4 ans et demi. Oui, Michel, pour
conclure. Il reste quand même que l'ambiance à l'Élysée va être crépusculaire, parce que quand même, ça va être très difficile de pouvoir rendre cet endroit attractif.
Bah,
lorsqu'on
oui.
a dit qu'on n'était pas candidat pour un second mandat, que le reste de sa famille politique va s'organiser sans vous, quelque part, voilà, on va accompagner les chrysanthèmes jusqu'à la fin du mandat.
Oh là là. Et alors, vous avez des infos sur le nom d'un possible Premier ministre, si ce n'est plus Manuel Valls, les rumeurs. Allez, les,
alors,
rumeurs.
Les discussions de couloir depuis hier soir, et d'ailleurs ils sont ensemble en ce moment dans les Émirats, c'est donc Jean-Yves Le Drian qui serait désigné, en tout cas comme étant impossible, sauf qu'il ne veut pas. Il veut rester donc lui à son ministère. Bernard Cazeneuve, auquel on pense aussi, bien lui, il se prépare plutôt à quitter la politique. Et peut-être à ce moment-là, parle-t-on de Marisol Touraine. Mais on verra, tout est ouvert, on n'est pas des devins, on va être surpris.
Merci beaucoup, Michel Darmon et Olivier Roucan, politologue, service compris. Continuons. Le bail de François Hollande à l'Élysée prend bientôt fin, mais le vôtre et toutes les questions qui se posent quand vous êtes locataire, la bonne attitude à avoir avec votre propriétaire, les erreurs à ne pas commettre. Michel Fréchet de la Confédération Générale du Logement pour vous conseiller dans deux petites minutes.